Georges Marc Boiret, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes délégué général du FIGRA. Le FIGRA, c'est un grand festival qui a lieu depuis de nombreuses années. Combien de temps exactement ?
Cette année, nous allons fêter nos 15 ans.
Eh oui.
Depuis 1993, nous sommes installés en région Nord-Pas-de-Calais, avec une bonne partie au Touquet, Paris-Plage.
D'accord. Donc le FIGRA, on va peut-être définir clairement à partir des lettres ce que signifie en termes de contenu ce projet qui dure depuis 15 ans maintenant.
Bien, un festival international, du grand reportage, d'actualité, et nous avons rajouté depuis quelques années documentaire de société, qui est difficile de mettre dans FIGRA doc, on ne savait pas trop bien s'il fallait ajouter quelque chose, mais ça signifie simplement que nous nous attaquons au sujet réalisé par d'une part des documentaristes qui se sont beaucoup interrogés sur la société et notre société, la société du monde, et des grands reporters qui sont la plupart du temps des journalistes, mais qui ont beaucoup maintenant évolué aussi dans leur métier et qui se rapprochent de plus en plus vers la réalisation. Donc c'est un peu des métiers semblables, mais qui ont deux appellations différentes.
Est-ce qu'on peut dire qu'au fil du temps, et depuis 15 ans qu'existe le festival, la découverte du monde d'une manière générale, de l'autre peut-être dans sa particularité, a été un peu modifiée sur ses angles, sur ses approches, sur ses thématiques ou sur la géographie tout simplement ?
Je crois que principalement ce qui attire les documentaristes et les grands reporters, les journalistes, c'est surtout de tenter d'être des témoins de ce temps. Et d'ailleurs, si on reprend l'histoire un petit peu même du magazine d'information comme le 5 colonnes à la une, par exemple, pour ne citer que celui-là, la grande préoccupation qu'avaient les réalisateurs de cette époque-là, c'était celle-là, témoigner. Et alors, ce qui est intéressant, et c'est ce que nous continuons à essayer de perpétuer aussi, c'est à travers le témoignage, c'est mieux connaître, mieux comprendre, mieux appréhender l'autre. Et quand on commence à mieux comprendre l'autre, eh bien, peut-être qu'on peut déjà mieux se comprendre soi-même. Et ça permet, en tous les cas, c'est une évolution peut-être plus grande dans le sens où la curiosité est plus grande. Mais c'est pas un grand, il n'y a pas un grand changement fondamental. C'est vraiment la base, c'est être curieux, avoir envie de savoir. Et comme le disait Igor Barrère, qui a été président d'un jury dans ses 15 ans, et qui maintenant, bien sûr, malheureusement est décédé, il disait que le métier de journaliste, c'était surtout de ne pas occulter ce qu'on voudrait bien occulter, quoi.
Alors, c'est vrai que pour être journaliste, il faut être curieux. Est-ce que la curiosité intellectuelle du journaliste croise donc la curiosité intellectuelle des spectateurs, d'une manière générale ?
Absolument, vous avez tout à fait raison, et j'ai tendance à penser toujours que le spectateur est intelligent. Contrairement à des idées reçues où on nous explique à longueur d'antenne quelquefois que le spectateur a besoin d'être pris par la main pour être guidé. C'est pas du tout l'esprit du festival. Et pourtant, nous fragilisons nos sujets dans la télévision d'aujourd'hui, internationale. Et donc, on se rend bien compte que les sujets qui prennent pas les spectateurs pour des imbéciles existent. Mmh. Et donc, c'est cela qu'on essaye de mettre à l'honneur dans ce festival. Parce qu'effectivement, entre les deux oreilles, il y a autre chose.
Alors, on assiste actuellement à une éclosion de chaînes thématiques. Dans ces chaînes télévisuelles, on a pas mal de chaînes qui s'intéressent aux reportages, aux grands reportages. On a quand même l'impression au fil du temps que ces reportages sont de plus en plus, j'allais dire, objectifs, entre guillemets.
Alors, ça c'est un grand thème, c'est l'objectivité. Moi j'ai tendance à penser, et je suis pas le seul, que l'objectivité en télévision, en journalisme, n'existe pas véritablement. On peut pas être véritablement objectif dans une situation particulière, donnée, quelle qu'elle soit d'ailleurs.
Mais on peut être honnête quand même.
Mais voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais on peut être honnête. Et l'honnêteté, effectivement, c'est quelque chose qui s'est renforcé au fil du temps, parce que le spectateur, justement, a appris à lire l'image, a appris à comprendre l'image. Et on le voit avec de jeunes téléspectateurs et de jeunes spectateurs sur le festival, puisque nous accueillons quand même cette année, nous allons accueillir plus de 1800 élèves, ce qui est quand même beaucoup. On se rend bien compte que l'éducation du regard, et qui mène à la compréhension, est de plus en plus importante, de plus en plus grande. Ce qui fait qu'effectivement, on a une honnêteté qui est mise en place obligatoirement, qui pour moi est différente de l'objectivité, parce que dès qu'une caméra filme quelque chose, selon le cadrage dans lequel on se trouve, avec lequel on se trouve, l'objectivité n'a pas la même force, quoi. Si nous sommes dans ce studio qu'une caméra nous filmait, on pourrait me voir tout seul devant un micro, on peut me voir avec vous, on peut me voir avec d'autres gens, ça fait pas la même chose. Donc l'objectivité, c'est quelque chose de qui peut exister, mais je n'y crois pas trop. Mais par contre, vous avez raison, l'honnêteté, ça me paraît essentiel.
En même temps, cette honnêteté est stimulée par l'exigence du spectateur.
Absolument. Je crois que plus nous donnons à voir d'images aux gens, vous savez ce que disait Scorsese, on apprend à faire du cinéma en regardant des films. C'est exact. C'est plus on voit de films documentaires, notamment en ce qui nous concerne, mais ça concerne aussi le cinéma de fiction, plus on voit de films, plus on aiguise son regard et plus on est dans la compréhension de ce qui est en train de se passer devant nous. Et ça, je crois que c'est pas nouveau, mais disons que quand on est envahi par un nombre important d'images, de quelque nature que ce soit, de toutes sortes, un festival comme le nôtre apporte un plus dans le sens où on retrouve le chemin de l'écran, de l'image projetée. Faut jamais oublier que les grands reportages, les documentaires sont faits pour la télévision. Et nous transformons nous trichons un petit peu, puisque normalement ce ne sont pas des images faites pour le grand écran. Mais vu la qualité des images que nous recevons maintenant, elles sont projetables sur de grands écrans, puisque nous avons 7 mètres de base sur un écran. Et nous sommes dans les conditions d'une salle de spectacle, de cinéma. C'est-à-dire la tête levée vers l'écran. Et on n'est pas dans les mêmes conditions. Donc du coup, le film prend une autre dimension. C'est-à-dire on redécouvre un genre. Et ça, effectivement, c'est aussi une manière pour le téléspectateur et les jeunes téléspectateurs de s'approprier ces images-là, d'en faire la sienne, et en même temps de peut-être, nous l'espérons, en aiguisant ce regard, faire en sorte que ce soit des spectateurs, des téléspectateurs avertis.
Alors, en même temps, cette façon de voir les images et d'entendre les sons, qui est différente de celle de la télé ou peut-être de l'ordinateur, on en parlera après, elle est aussi doublée par le fait que les gens sont ensemble dans une salle et peuvent éventuellement échanger. Alors peut-être à vous de définir quelle est la...
Exactement. La tentation que l'on pourrait avoir, c'est de projeter des films et puis ne pas avoir de rencontres. Et un festival, si c'est vraiment le symbole même de la rencontre, c'est le symbole même de l'échange. Donc on a conçu ce festival de telle manière que la circulation des personnes soit faite de telle façon qu'il y a toujours la possibilité de se croiser, de se retrouver sur ce qu'on appelle la place publique, un lieu central, plusieurs salles. Le lieu est magique parce qu'il est assez rassemblé.
Et donc on va le rappeler, c'est le...
Le Palais de l'Europe au Touquet, Paris-Plage, donc dans le Pas-de-Calais. C'est une sorte de palais des congrès, si vous voulez, mais plus à même de répondre à nos besoins, puisqu'on peut recréer plusieurs salles de projection et plusieurs lieux, des lieux d'exposition, des lieux de rencontre, comme je disais. Et ces rencontres-là se font également avec ceux qui font les films. Le téléspectateur et le spectateur aiment rencontrer les réalisateurs. Et c'est ça qui fait un peu la richesse d'un festival, c'est d'amener... Et donc tous les films que nous présentons, sur les 87 films que nous présentons, nous en avons 47 en sélection officielle, dont la compétition. L'ensemble de ces 47 films sont présentés avec les réalisateurs, ce qui est quand même assez exceptionnel pour le signaler. Et donc ces rencontres-là permettent effectivement, à la fin de chaque film, une rencontre avec le public, animée par un journaliste qui pose quelques questions d'entrée au réalisateur et qui ensuite entame une discussion avec le public direct. J'aime beaucoup l'esprit d'échange entre le public et les réalisateurs, parce que c'est ça qui fait aussi la richesse de la rencontre. Ça s'appelle parole de reporter et le public aime beaucoup ça.
Alors, Marc Boiret, la sélection, donc ces 40 films qui sont proposés, 47 films qui sont proposés au public, c'est une sélection qui a été opérée à partir de quels critères et par qui? Quel est le jury en fait?
Alors,
de sélection,
on n'a pas proprement parlé de jury. Je suis, j'ai tendance à dire tout le temps que je signe ma sélection, c'est-à-dire que je fais la grande partie de la présélection. Sur une partie des films que nous présentons, je prends quelques avis quand des questions me sont posées à mon regard. Mais la plupart du temps, au final, c'est moi qui donne ce que ça appelle la décision finale. Sur les 23 films qui sont en compétition, les 12 films, 13 films qui sont en Autrement vu, l'autre section, et la nouvelle section que nous avons créée cette année, qui est Terre d'Histoire, le fait historique à la télévision, 8 films. Ce regard-là s'opère sur 253 films reçus. Alors, on a une inscription payante, ce qui fait que ça retient un petit peu peut-être les inscriptions, mais c'est en même temps un peu humain. Au-delà de cette masse-là, on aurait un petit peu de difficulté. Donc, il n'est pas dit que nous revenions pas vers un jury de sélection, ce que nous avions déjà eu par le passé, mais pour l'instant, nous avons fonctionné comme ça. Nous avons pu tenir.
Donc, on l'a compris, vous êtes aussi directeur artistique.
Voilà.
Et par ce biais-là, donc, vous amenez au public à voir des choses inédites en général?
Oui. Alors, l'inédit est un peu plus compliqué chez nous parce que nous présentons une sélection faite sur une année de télévision dans le monde, de novembre 2006 à octobre 2007. Ce qui fait que ces films-là sont souvent passés à la télévision, peuvent avoir été diffusés à la télévision sur les écrans, mais quelquefois non. Alors nous ne cherchons pas spécialement à avoir des inédits, mais quand on en a, on est bien content.
Est-ce que vous avez l'expérience de films qui sont non diffusés à la télévision pour des raisons que vous pouvez peut-être identifier et que vous proposez comme alternative justement?
Si le film, non, on rentrerait pas dans cette pas vu à la télévision, par exemple. C'est pas, mais si le film n'est pas diffusé à la télévision pour des raisons X, comme par exemple, je tombe là sur Les Enfants de la Baleine, qui n'ont encore toujours pas diffusé à la télévision parce qu'il n'y a pas, il n'y a plus la case. Vous savez, on parle beaucoup de cases à la télévision. On programme plus des films, on programme des cases parce que la case n'existe pour lequel ce film là avait été fait. N'existe plus, ben on n'a pas programmé, ce film n'est encore pas programmé. Donc il ne s'agit même pas d'une censure quelconque, puisque le film parle d'un peuple qui est en train de disparaître dans le Grand Nord, les Tchouches, du côté de l'Alaska. Voilà, c'est donc un film qui n'a pas été diffusé, on le programmera parce que le film est bon. Donc c'est pas un critère, mais si les films sont bons et qu'ils n'ont pas été diffusés, on en a d'autres comme ça en Autrement vu. On a un film sur les Khmer rouges qui n'a pas été diffusé, qui a été réalisé quasiment à compte presque d'auteur par le réalisateur, le journaliste. Et donc le film est bon, on le présente.
Alors qu'est-ce que vous pensez de l'Internet comme lieu de diffusion de courts-métrages, notamment de films documentaires?
Je pense que c'est une nouvelle école. Moi, j'ai tendance à penser que école parce que je crois qu'il y a un apprentissage derrière par d'Internet. Et que pour en arriver à être son propre programmateur de documentaires, je pense qu'il va falloir, un peu de temps parce qu'on est encore dans la culture du zapping. Et là, Internet est encore plus, puisqu'on appelle ça naviguer sur la toile. C'est pas pour rien, c'est qu'on peut passer d'un monde à un autre très rapidement. Pour arriver à faire son propre programme, je crois qu'on aura besoin un peu de temps. Mais je pense que c'est certainement l'avenir.
Et par exemple, les systèmes comme Dailymotion, YouTube, etc., qui finalement font aussi connaître des films qui sont, pour des raisons qui nous échappent, non distribués. Ou, par exemple, il y a eu un film très intéressant sur les semences ou les produits génétiques fabriqués par une grande entreprise internationale agroalimentaire. Ce film a peut-être été autant vu sur Internet grâce à Internet et avant la diffusion de ce film par une chaîne publique.
Absolument, non, ça c'est un média et un vecteur d'information, mais on trouve de tout aussi. C'est mon grand questionnement sur Internet, c'est que justement avoir tendance à croire que tout ce qui est sur Internet est vrai. Et vérifié. Moi, tant que les informations qui sont dessus sont justes et vérifiables et vérifiées, bon, au contraire, c'est un vecteur fantastique. Mais il faut se méfier quand même, on y trouve de tout. Hein.
Tout à fait.
Et il faut être drôlement informé quelquefois pour dénouer le vrai du faux. Donc, c'est le grand danger. Parce que quand vous avez des esprits pas suffisamment éclairés, pas suffisamment informés, pas suffisamment au parfum ou au décodage de certaines manipulations, ça peut aller très loin et ça peut apporter certaines confusions, quitte même à véhiculer des informations totalement fausses, quoi.
Alors, justement, sur ce sujet, est-ce que, selon vous, le journaliste est et reste quelqu'un qui peut être à qui on peut attribuer un réel crédit quant à la véracité des propos ou des images?
Moi, je le pense, parce que un vrai journaliste ne travaille jamais seul, travaille toujours dans une équipe, toujours dans une rédaction. Le fait de travailler avec une rédaction oblige à un certain nombre de vérifications. On sait, hein, il y a toujours des exceptions, on est bien d'accord, hein, il y a toujours des choses qui échappent, mais on sait bien que par le biais d'une rédaction, il y a un rédacteur en chef, c'est pas pour rien qu'il est là, il a le regard, on passe par ça, tout ne passe pas à la radio ou la télévision ou sur le journal, et cette garantie-là garantit aussi aux téléspectateurs, aux lecteurs et à l'auditeur, lui garantissent en tous les cas que ce qu'il entend a été vérifié. Si on se met à remettre en question ce principe-là, cette déontologie-là, on peut aller dans des endroits qui peuvent nous entraîner très loin. Alors, on n'est pas obligé de tout croire, même si c'est dit par un journaliste patenté avec une rédaction en chef. On sait très bien que tout ça peut être manipulé. Mais quand même, d'une manière générale, il y a quand même une règle de ce métier à laquelle moi je suis très attaché. Et c'est pas parce qu'il y a eu quelques dérives et qu'il y en a toujours dans tous les métiers qu'on doit jeter le bébé avec l'eau du bain.
Alors, est-ce que la concentration des moyens audiovisuels aux mains d'un certain nombre de groupes, de presse, et voire d'armement, des lobbies, comme on dit, n'empêche pas une certaine diversité de l'information, et notamment au travers de la diffusion de certains de ces reportages? Est-ce qu'il y a des choix que vous ressentez comme étant restrictifs ou non?
Alors moi, je suis en bout de chaîne. C'est vrai que comme je reçois une masse de sujets importants, je peux me permettre je dois en sélectionner une vingtaine, donc ça me permet quand même de choisir des sujets qui ne rentreront pas dans cette dichotomie-là, dans cette morale. Mais je peux comprendre que des journalistes soient en difficulté quelquefois avec certaines informations liées à leur... à leur conseil d'administration ou ceux qui possèdent il y a une règle de séparation normalement, hein. Tous les journaux le disent et ça se comprend, c'est normal, c'est logique.
Mais il y a aussi des lignes éditoriales un peu frustrantes.
Il y a aussi des lignes éditoriales frustrantes. Mais je crois que quand un journaliste arrive à son maximum de tolérance, eh bien, il a une règle qui s'appelle la clause de conscience et il a fait appliquer en général. Mais ça n'empêchera pas le journal de continuer à exister dans la dérive, si dérive il y a. Hein.
Alors, au-delà du journal, est-ce que certains reporters, grands reporters, peuvent travailler en freelance et donc produire les choses par eux-mêmes et après essayer de diffuser ça ou de proposer à la diffusion des œuvres originales et qui ont un certain concept, un certain style et un certain engagement, pourquoi pas?
Alors très très difficile, parce que il y en a de plus en plus qui le font, parce que les matériels se sont allégés, les prix sont quand même moins élevés que dans le temps, on n'a plus besoin des mêmes conditions techniques. Beaucoup le font maintenant, c'est vrai. Mais la grande difficulté, c'est que les chaînes de télévision, pour ne citer qu'elles, prennent très très rarement des sujets déjà fabriqués par quelqu'un d'autre auxquels elles n'ont pas participé, ne serait-ce que au départ du projet, ou c'est très rare, très très rare. Mais il y a des créneaux. Et là, pour en revenir à Internet, certains sites qui se sont créés très récemment rentrent dans ce secteur-là et vont progressivement pouvoir utiliser ces sujets qui sont eux de très grande qualité. On en a eu d'ailleurs qui ont été présentés dans le festival l'an dernier. Sur la Birmanie notamment, qui avait d'ailleurs eu une mention spéciale, remarqué par le jury, parce qu'effectivement, c'était un sujet qui était fait par quelqu'un qui était parti avec rien, sans moyens, et sans, surtout, sans la protection d'une rédaction quelconque. Mais après, pour revenir vendre tous ces films, c'est quelque chose de compliqué, difficile. Mais ça existe, et leur valeur n'est pas remise en question.
Est-ce que vous sentez l'impact ou un impact des obligations que donne le CSA aux chaînes dans le cadre d'un cahier des charges d'être coproductrice d'un certain nombre d'œuvres, notamment des courts-métrages ou des reportages?
Oui, c'est heureux qu'on puisse que les chaînes puissent être partenaires et coproducteurs quelquefois sur des sujets puisque au bout de la chaîne, c'est quand même la chaîne qui va diffuser le sujet. On peut comprendre qu'elle ait besoin d'être impliquée dès le départ. Si cette implication, ensuite, indique à faire ou pas faire, là, on peut être en difficulté. Mais ce n'est pas souvent le cas. La tendance, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est l'ouverture avec ces fameuses cases dans lesquelles on a un public que l'on considère être le public pour cette case. Et donc, on va aller chercher des sujets à faire pour rentrer dans cette case-là. Donc, vous voyez, c'est là que le formatage peut intervenir, c'est-à-dire qu'on a besoin de produits qui rentrent dans cette case-là. C'est le gros inconvénient. Moi, je regrette qu'il n'y ait pas de case plus libre que ça, en programmation libre, sans avoir une étiquette forcément, et forcément éditorialisée, comme on dit maintenant. Ça existait dans le temps, ça existe de moins en moins. Et c'est vrai que certains films, quand les auteurs changent, quand les animateurs ou les producteurs de ces émissions changent, eh bien, effectivement, des films qui ont été produits, comme je le disais tout à l'heure, sont oubliés, sont mis de côté, et l'auteur qui l'a réalisé, pourtant de bonne qualité, n'est plus diffusé parce qu'on ne sait plus où le mettre. Ce qui est quand même invraisemblable, quoi. Mais la coproduction et la production des chaînes me paraît quand même un bon critère, quand même, de qualité aussi, quoi.
Alors, Georges-Marc Boiré, est-ce que les films que vous diffusez sont des films qui sont récents, ou est-ce qu'on peut imaginer aussi qu'un certain regard sur des films anciens et sur aussi une réflexion autour de combien peut durer l'authenticité d'une œuvre ou quel repère elle peut donner par rapport à l'histoire, c'est quelque chose qui vous interpelle?
Alors, ça nous intéresse. C'est vrai que c'était une question que nous traitions il y a quelques années en arrière, hein, quand on a démarré. On avait une case qui s'appelait... une section qui s'appelait Regards croisés, et où on croisait effectivement, où ça pouvait être des sujets anciens qui se croisaient avec des sujets nouveaux. Mais là, depuis quelques années, nous avons opté pour l'année en cours, et la plupart des sujets que nous présentons sont de l'année en cours. Mais il peut se trouver, je ne le rejette pas du tout, au contraire, de retrouver quelques films anciens, à travers ne serait-ce que des hommages, à travers le regard d'un producteur. Je n'ai pas bloqué ça, mais c'est quelque chose que je peux pratiquer, oui.
Alors, pour les réalisateurs, les journalistes qui ont la chance d'être diffusés dans le cadre du FIGRA, en quoi ça peut porter, sinon leur carrière, au moins leur film?
Bien, disons que la programmation de ces films, en général, dans ces fameuses cases dont je parlais tout à l'heure, sont faites à des horaires rarement en première partie de soirée, ça existe, mais rarement. Deuxième partie de soirée, c'est assez souvent. Mais alors, troisième partie de soirée, c'est très fréquent. Ce qui fait que, quand on dit troisième partie de soirée, l'horaire, il faut se rappeler que c'est quand même à partir de 0h30, quand même.
Ah oui, quand même.
Donc, à 0h30, en général... Moi, en tous les cas, personnellement, je tente de dormir. Quelquefois, j'y arrive mal, mais je regarde la télé dans ces cas-là, mais c'est très fréquent, et heureusement, j'arrive à dormir. Donc, à 0h30, je dors, et si un grand film intéressant qui a été programmé dans ce festival cette année est passé à 0h30, j'ai une petite chance de lui donner une deuxième chance en le reprogrammant dans un festival. Et là, avec cette qualité supplémentaire dont je parlais du grand écran. Ensuite, le fait d'être reconnu entre guillemets, par un prix honorifique, puisque la compétition ne donne pas de prix en argent, mais simplement des prix honorifiques, par un jury professionnel, cette année présidé par Daniel Lecomte, et avec un jury composé de personnalités du monde audiovisuel, comme Manon Loiseau, qui a été grand prix l'an dernier. Eh bien, cet honneur que fait la profession à ce film redonne au film un petit plus, et en tous les cas, à l'auteur du film, lui permet dans son CV, parce qu'il l'utilise, de le signaler et d'avoir un regard un petit peu différent de quelqu'un qui arriverait à avoir un nouveau projet en disant « Tiens, pourquoi pas ? Ah, c'est marrant, il y a eu un truc. » Voilà. Ça n'a pas de valeur plus que celle-là. J'ose espérer que ça donne un petit coup de pouce à des films qui ont plus la chance d'être projetés, parce qu'une fois qu'ils sont passés à la télévision, en général, ils n'ont pas de deuxième vie. Et le public les voit dans des conditions différentes, et pour le réalisateur, c'est un plus, sans ne serait-ce que de voir le public regarder un film, applaudir, discuter avec lui, il est déjà ravi. Parce que ça, ils ne le voient pas, ça, en général. Ils ont simplement les audimates dans les ascenseurs des chaînes de télévision sur leurs films. Alors, j'ai fait 4-9, j'ai fait 5-8. C'est vrai qu'ils font 5-8, ils sont contents. Hein.
Alors, si on prend les 15 dernières éditions du FIGRA, enfin, est-ce qu'on peut dire que les artistes qui ont été repérés par le FIGRA ont eu des carrières favorisées ? Est-ce qu'on peut citer quelques exemples ?
Ça, j'aimerais pouvoir vous dire des choses, mais je sais qu'on a des réalisateurs récurrents qui sont relativement sélectionnés. D'ailleurs, ça pose un problème, c'est-à-dire qu'il faut vraiment renouveler, j'allais dire, le cheptel réalisateur de plus en plus, parce que sinon, effectivement, on risque dans quelques années encore de tourner en boucle avec un certain nombre de réalisateurs connus, reconnus, et à qui les chaînes font confiance pour des projets nouveaux, parce que c'est ça aussi. Hein. Et c'est ce qui nous a amené à créer ce fameux coup de pouce. Nous sommes dans une radio étudiante. Le coup de Pousse s'adresse à de jeunes réalisateurs ou moins jeunes, mais qui ont leur premier projet réalisé et qui ont un deuxième film en devenir à préparer et à faire. Et donc on s'est posé la question en se disant, est-ce que c'est pas là qu'on pourrait peut-être trouver la nouvelle génération de réalisateurs à travers l'aide qu'on pourrait apporter à un projet à venir? Et donc on a créé cette section-là, on a reçu 47 projets écrits et 47 films, premiers films, qu'on présentera dans le cadre de la vidéothèque, et nous en avons sélectionné 5, dont un sera distingué par un jury professionnel qui remarquera si le projet est le meilleur pour être présenté et obtenir une bourse d'aide à la création et aussi en argent et en matériel. Donc c'est cette volonté derrière, justement, d'aller vers des réalisateurs nouveaux pour sortir peut-être d'autres noms, vous dire que certains ont réussi grâce au FIGRA. Je serais prétentieux de dire ça parce que je ne saurais pas le dire. Mais je sais que certains réalisateurs comme Manon Loiseau, pour ne citer qu'elle, ou Todoli, dont je parlais tout à l'heure, parce que c'est des gens qui sont assez souvent ou primés chez nous ou qui sont souvent venus présenter des films. C'est un peu, ça se trouve aussi dans d'autres festivals, hein, où on revoit des noms revenir et on peut se dire, tiens, c'est qu'ils travaillent, hein, par rapport à d'autres qui travaillent moins. C'est la seule remarque que je pourrais faire. Et des boîtes de production qui sont assez nombreuses en France, mais certaines d'entre elles se distinguent plus que d'autres, voilà, parce qu'elles ont un volume d'affaires plus grand, parce qu'elles ont peut-être plus de confiance aussi de la part des chaînes. Il faut quand même rappeler que sans chaîne de télévision, sans ce qu'on appelle le diffuseur, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de documentaire possible, hein.
Alors, le FIGRA, c'est un festival qui est spécifique, puisqu'on parle de grands reportages d'actualité, de documentaires de société. Ce n'est pas a priori un vivier d'artistes au sens du film artistique ou du film esthétique. Où est la frontière ? Il faut quand même un peu de tout, non ?
Ah oui, il faut de tout. Vous avez tout à fait trouvé la formule. Il faut de tout, et c'est toute la difficulté d'arriver à faire une sélection de films. Parce que sur certains films difficiles à faire pour des raisons pas forcément techniques, mais pour des raisons géopolitiques, pour des raisons pour rentrer dans le pays ou pour faire parler quelqu'un dont on sait que l'information est essentielle au film, etc., on sait qu'on pourrait peut-être se dire on va sacrifier à la qualité. On pourrait se dire ça. Eh bien, il se trouve que derrière ces caméras-là sont quand même de grands professionnels. Et la plupart du temps, et vous savez, le grand écran ne triche pas. Si vous n'avez pas un bon cadre, vous allez vite le remarquer, vous allez ressortir comme si vous étiez en mer. Hein. Donc, donc ils ne sont pas forcément avec un pied, parce qu'on ne tourne pas toujours avec un pied, et on s'aperçoit que les images sont stables. Alors, bien sûr, la technique a fait beaucoup aussi, hein, vous savez, les stabilisateurs, etc., c'est vrai. Mais même le cadre ne se justifie pas simplement par sa stabilité, elle se justifie aussi par ce qu'il y a dedans. Et ce qu'il y a dedans, la plupart du temps, par exemple, pour un peu de technique, les grands angles qu'on a utilisés pendant très longtemps, ça commence à disparaître, ça. Et on revient à de la profondeur de champ, même si la vidéo, malheureusement, il y en a moins. Donc ça donne de la qualité au film, et on s'aperçoit quand même que là, et en plus, la technique aidant, on peut tourner avec moins de lumière que l'on en aurait besoin dans le temps, ce qui fait que c'est quelque chose qui apparaît quand même. Je ne dirais pas que c'est une volonté absolue, mais un beau cadre, une belle image, ça existe encore. Et nous essayons, bien entendu, d'en sélectionner le plus possible. C'est vrai que ces grands professionnels qui sont derrière ces images nous apportent en général de belles images, alors que on aurait tendance à penser que, vu le sujet qui est traité, on pourrait penser que c'est pas ça l'essentiel. C'est ce qui va être dit qui va être essentiel, ce que le personnage va dire qui est l'essentiel. Et en même temps, on se dit, tiens, c'est marrant, mais c'est bien quand même, c'est bien tourné, quoi. Vous voyez, et bien sûr, la qualité du montage fait aussi le film. Je pense qu'un bon film, ce que j'ai toujours tendance à dire, qu'un bon film, ça se repère sur un petit peu de tout, quoi.
Très bien, vous nous avez donné envie, Georges-Marc Boiret, de venir au FIGRA, donc du 26 au 30 mars, ça se passe au Touquet, Paris-Plage, dans le cadre de ce magnifique lieu qui est donc...
Le Palais de l'Europe,
eh oui.
Et qui se trouve au Touquet, et qui est un endroit assez sympathique, assez facile d'accès et ouvert. Et notre festival est un festival véritablement, que j'ai toujours voulu convivial. J'ai jamais trop voulu céder à d'autres sirènes. C'est la seule chose qui m'intéresse, c'est de faire en sorte que des gens se réunissent autour du documentaire de société et du grand reportage, en sachant tout de même que nous touchons un genre difficile, mais il n'y a pas d'information sans effort, ça n'existe pas. Et ça, on espère que le citoyen qui a vraiment besoin, qui a envie de connaissances et qui a envie d'être informé, trouve dans notre festival la matière qu'il recherche.
Merci beaucoup, et pour toute information complémentaire, vous pouvez aller sur www.figra.fr. Au revoir.
Au revoir, merci. Thank you.
cabeza. No, no, pa que cae que vaya a ver a ye. Bikin hati, beta la belisa. No, no, pa que cae que vaya e. Kata mangga, mangga muda manis. Mangga datang dari hilang. Kata nona, nona hitam manis. Bikin nyong syu jadi gila. Sungguh bagus sih. Kata nona hitam manis sih. Siu nona hitam.